Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Rembobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter la passionnante Geneviève, journaliste à la retraite qui n'a pas perdu le sens des bonnes accroches. Son récit est juste haletant. Je laisse mon ancienne collègue et amie Soria vous présenter Geneviève. Un grand merci à Soria d'avoir soutenu le projet Rembobinette sur Ulule. Sans elle et tous les autres contributeurs, il n'y aurait pas eu de saison 3.
Issue d'une fratrie de 7 enfants, Geneviève grandit dans un milieu favorisé à l'abri du besoin. Elle reçoit une bonne éducation à Paris, au cours des IR, comme Simone de Beauvoir. Devenue documentaliste pour un journal, elle voit sa vie basculer le jour où elle rencontre Philippe, un jeune journaliste dont elle tombe follement amoureuse. Elle apprend de lui l'amour, la politique, la vie, les autres, tout. Et le jour où il lui demande de le suivre au Liban, elle part. Lorsqu'elle arrive, le pays est en guerre. La jeune femme n'aurait jamais dû connaître ça. Les tirs, les bombardements, le chaos. Et c'est pourtant le début de sa nouvelle vie. Elle, qui deviendra journaliste et parcourra la planète, des Amériques au Cambodge, en passant par la Birmanie, pour raconter les histoires des autres. Geneviève nous parle du journalisme d'avant, tel qu'elle l'a vécu. Elle nous parle de ses voyages, de guerre, mais aussi d'amour, de famille et de solidarité. Geneviève, la parole est à vous.
Bonjour Geneviève. Merci de me recevoir chez vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui nous écoutent ?
Alors, je m'appelle Geneviève et je suis d'une fratrie de 7 enfants. Un argument qui compte beaucoup dans ma vie parce que, encore aujourd'hui, enfin, nous nous sommes accompagnés durant toute notre vie. Par ailleurs, j'ai été journaliste pendant 25 ans à l'Express, 6 ans au Monde. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais quand on est journaliste, on l'est pour la vie. Et donc, je considère que je serai jusqu'à la fin de mes jours. Actuellement, depuis que je suis à la retraite, je donne des conseils, je réécris pour d'autres, pour mes neveux et nièces, leurs thèses, leurs lettres d'embauche. Enfin, voilà, je continue à exercer mon métier d'écriture. Régulièrement.
Ben, ça fait une belle introduction, comme ça on voit un petit peu tout chaque passage de votre vie. Si on revenait sur la partie de votre enfance, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Dans quel type de famille vous avez grandi? Quel genre de petite fille vous étiez?
Nous avons été élevés dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, qui était un quartier de la bonne bourgeoisie intellectuelle parisienne. Notre père était journaliste et directeur d'une maison d'édition, a créé une maison d'édition dont il a pris la direction. Il était écrivain, il a écrit des livres de jeunesse. Et les enfants, nous étions dans des écoles catholiques qui ont, à l'époque, comptaient beaucoup. Les garçons étaient à Bossuet et les filles au cours Désir. Le cours Désir, c'est l'école dans laquelle a été élevée Simone de Beauvoir. Et peut-être vous connaissez-vous ce titre de son livre, Les mémoires d'une jeune fille rangée. Eh bien nous, je crois que nous étions des petites filles rangées d'une certaine manière. Au cours des IR, on nous expliquait que si nous étions renversés en traversant une rue et que nous ne nous étions pas confessés très peu de temps auparavant, nous pouvions aller en enfer parce que nous étions en état de péché mortel. Et cela m'a beaucoup frappée parce que tous les matins, je partais avec mes sœurs au cours des IR. Nous avions une rue à traverser, la rue Saint-Benoît. Et mon grand souci était que chacune de mes sœurs arrive vivante de l'autre côté de la rue Saint-Benoît avant d'entrer dans l'école pour être sûre qu'elle ne meure pas en état de péché mortel. Voilà, ce sentiment de culpabilité, je dois dire, a été très présent dans ma vie. Bien sûr, j'ai réussi à lui donner sa juste place, mais c'est un grand souvenir de mon enfance et de la manière dont j'ai été élevée et dont je me suis comportée après.
Sacrée pression pour des jeunes enfants.
Oh oui, c'était terrible. J'avais tellement peur. J'avais plus peur pour mes frères et sœurs que pour moi-même, à vrai dire. Mais c'est ce sentiment ne m'a jamais quitté. Je n'ai jamais oublié cette peur et cette responsabilité vis-à-vis de ceux qui étaient plus jeunes que moi et peut-être aussi vis-à-vis du Seigneur Dieu qui nous a imposé sa loi.
Et à part cet aspect religieux dans cette école, comment ça se passait ?
C'était un bonheur. Nous étions des enfants gâtés. Avec les amis de ma classe, nous avions créé... Il y avait 3 chapelles dans l'école. Et il y avait une chapelle qui était devenue notre camp secret. C'était une toute petite chapelle qui s'appelait Notre-Dame des 7 douleurs. Et nous avions créé un club qui s'appelait le club des ondines des flots bleus. Je n'oublierai jamais. Et nous nous retrouvions, nous nous échappions pendant les récréations et personne n'a su que cette chapelle était devenue notre camp secret.
Et c'était quoi le principe de ce club ?
C'était pas grand-chose. C'était juste d'échapper à la surveillance des demoiselles qui s'occupaient de nous parce que ce n'était pas une école de bonnes sœurs, c'était une école, on les appelait des demoiselles. C'était des sœurs en civil, elles n'étaient pas mariées, elles étaient toutes célibataires, elles étaient plutôt âgées.
Et vous y êtes restée jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, la situation de notre père a évolué. Il a été nommé directeur d'un journal en province, à Besançon. Et les enfants, nous sommes venus, enfin, nous avons suivi notre père et notre mère. Et nous nous sommes installés à Besançon. Mais dès que nous avons eu notre bac, tous les uns et les autres, chacun d'entre nous, nous sommes repartis à Paris ou à Nancy, d'où était originaire une partie de la famille. Faire nos études supérieures.
D'accord. Il était à quel journal ?
Les dépêches qui ont été rachetées par l'Est républicain.
D'accord. Très bien. Donc là, vous êtes à Besançon. C'est là où vous avez eu le bac ?
J'ai eu mon bac à Besançon. Notre mère était très fragile et a été obligée de passer différents séjours, assez longs séjours, et partie de sa vie dans des cliniques, en clinique. Et donc, à Besançon, c'est moi qui étais responsable de la famille, de mes frères et sœurs. Enfin, les frères et sœurs, il ne restait que les 2 derniers de la fratrie, des jumeaux, les autres étant partis faire leurs études, soit à Paris, soit à Nancy.
Donc, vous avez un peu repris le rôle de votre maman ?
Voilà. En quelque sorte, j'ai tenu la maison pendant quelques années, jusqu'à ce que maman revienne. Et à ce moment-là, moi-même, je suis repartie à Paris. Comme on dit en province, remontée à Paris.
Exactement. Et qu'est-ce que vous avez fait à Paris ?
Alors, à Paris, j'avais fait une licence de lettres classiques, grec, latin et allemand, et j'avais fait un institut de documentation. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai été embauchée par une agence de presse, j'avais 23 ans, une petite agence de presse qui s'appelait Urba Presse, qui s'occupait d'architecture et d'urbanisme, pour être documentaliste. Et il s'est trouvé que dans cette agence de presse, un jour, est arrivé un journaliste qui proposait ses services, dont je suis tombée folle d'amour. Et folle d'amour, il n'y a pas d'autre mot à dire.
Vous allez nous expliquer pourquoi ?
Oui. J'avais jusqu'à présent, c'est-à-dire j'avais 24 ans, j'étais une jeune fille très protégée par la vie. J'appartenais à un milieu et à une famille dans laquelle on ne parlait pas de politique, on ne parlait pas d'argent, ça ne se faisait pas. J'étais très naïve sur beaucoup de points et ce monsieur que j'ai, ce garçon, on va dire, qui avait 25 ans, quand je l'ai rencontré, m'a appris beaucoup, très vite, de la politique, il m'a fait comprendre que, et d'ailleurs j'en ai eu très vite envie, que le socialisme pouvait être une réponse à mes interrogations, enfin le parti socialiste, les pensées du socialisme, que les Palestiniens avaient droit à leur pays, que les Chiliens avaient droit à la liberté, qu'il m'a expliqué beaucoup, beaucoup, très vite, en très peu de temps, j'ai découvert ce qu'était la politique étrangère de la France, je me suis intéressée à la manière dont vivaient les autres, le monde, les autres pays. Jusqu'à présent, j'avais tellement été protégée et éloignée de toutes ces préoccupations, je dois dire.
Et vous étiez toujours restée en France, par exemple ? Il y avait peu de voyages à l'étranger, peut-être ?
Non, les quelques voyages à l'étranger que j'avais fait, c'était quand nous étions... la sœur qui est derrière moi, ma sœur cadette et moi-même, nous allions chaque année en Allemagne pour pratiquer notre allemand chez des amis de notre père, avant la guerre. Et notre père a fait partie de ces gens qui... Il a été prisonnier lui-même pendant 5 ans. Il était officier français, il a été arrêté à Dunkerque. Il était dans un camp de prisonniers, l'Ofla 4, en Silésie pendant la guerre. Et après la guerre, par le scoutisme, il était scout avant la guerre, bien sûr. Il avait connu l'épisode Baden-Powell et les grandes années du scoutisme, de la fondation du scoutisme dans les années 30-33 aux États-Unis. Et il avait fait partie de ces gens qui, après la guerre, ont souhaité la réconciliation avec l'Allemagne. Et tout en étant très conscient, évidemment, de la gravité de ce qui s'était passé pendant cette période, lui-même ayant été, je vous ai dit, prisonnier pendant 5 ans. Et du coup, nous allions, à l'âge de 14, 15, 16 ans, nous allions en Allemagne, dans la famille des amis de notre père, à Munich, et nous pratiquions notre allemand. Et cette famille nous emmenait au musée, à l'opéra. Enfin, on a passé 15 jours chaque année en Allemagne à ce moment-là. Donc, je connaissais l'Allemagne. Je connaissais l'allemand. Et c'était mes seuls voyages.
Et donc là, à 23 ans, grâce à ce monsieur, jeune homme à l'époque.
Ce jeune homme.
Voilà. Vous découvrez un nouvel horizon.
Voilà. Exactement. Je découvre... un nouvel horizon, et je découvre surtout, lui-même étant stagiaire au Monde à l'époque, au journal Le Monde, avait été envoyé au Chili pour la chute d'Allende, puis en Argentine, il a décidé de partir au Liban au moment des premiers événements, c'est-à-dire en avril 1975, sans savoir que ces événements deviendraient une vraie guerre. Et à la fin de l'année 75, il a décidé de rester au Liban et m'a demandé de le rejoindre. Et moi, j'étais tellement amoureuse que j'ai vendu tout ce que j'avais à Paris, mes meubles, mes vêtements. Enfin, j'ai gardé le nécessaire, évidemment. Mon père a été extrêmement... compréhensif et m'a offert mon billet d'avion, ce qui est quand même une preuve de grande confiance de la part d'un père, il m'avait dit, si c'est ton choix de partir, il faut que tu le fasses. Et moi, mon choix, c'était effectivement pas forcément de partir à Beyrouth, mais de rejoindre l'homme que j'aimais, Philippe, qui s'appelait Philippe.
Et est-ce que c'était votre premier amoureux ?
c'est pas du tout mon premier amoureux, mais c'était mon, ça a été mon premier grand amour, et ça a été, je crois, l'amour de ma vie, même si nous nous sommes quittés très vite, puisque lui, enfin, nous nous sommes quittés très vite. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, mais il est toujours resté très cher, enfin, comme l'homme qui a changé ma vie et qui a fait ma vie. Vous allez comprendre pourquoi.
Ok, d'accord. Alors, je vous laisse reprendre au moment où vous recevez ce billet d'avion de la part de votre papa, qui est très compréhensif. Et là, vous partez à quoi, 23 ans ?
Je pars à Beyrouth, j'avais 24 ans. Okay. Pas encore 24 ans. Je suis partie le 11 mars 1976 à Beyrouth. L'avion était quasiment vide. C'était un avion de la compagnie libanaise. Et il n'y avait personne dans l'avion, mais il y avait un des stewards, une de mes amies connaissait un des stewards de cette compagnie et m'avait recommandé auprès de ce steward. Et il s'appelait Ellie, je me souviens. Et il a pris soin de moi, il m'a offert du champagne dans l'avion. Nous étions 11 personnes, c'était le 11 mars et j'ai compté les gens dans l'avion. Nous étions tous en first. Parce que nous n'étions que 11 à partir à Beyrouth ce jour-là. Et quand nous sommes arrivés à Beyrouth, l'armée libanaise venait de prendre l'aéroport contre les chrétiens. Non, pardon, contre les morabitounes, c'est-à-dire les musulmans qui occupaient l'aéroport. L'armée libanaise était remontée au front et avait repris l'aéroport, et les combats étaient très très violents entre l'armée libanaise, les morabitounes qui représentaient les troupes musulmanes et les troupes chrétiennes conduites par Pierre Djemael, les fameux phalangistes. Et moi, j'étais dans l'ignorance totale de ce que pouvait être la situation à Beyrouth. Et Ellie m'a confié à un de ses amis qui était chauffeur de taxi, qui était chauffeur de taxi arménien. Et les Arméniens, à l'époque, représentaient la neutralité dans la guerre du Liban. Et donc, ils pouvaient être arrêtés à des barrages chrétiens, à des barrages musulmans, on les laissait passer. Ils étaient neutres dans cette guerre. Donc, ce chauffeur arménien m'a conduit, moi je voulais aller au centre de Beyrouth jusqu'à l'hôtel où était situé à l'époque, où habitait à l'époque, étaient logés tous les journalistes internationaux qui commençaient à couvrir le début de cette guerre et où Philippe habitait. Seulement, ce chauffeur m'a expliqué que ce n'était pas possible d'aller au centre-ville à Amra. Le centre-ville s'appelant Amra, d'aller jusqu'au centre-ville, et il m'a dit, je peux vous conduire sur la ligne de séparation entre les chrétiens et les musulmans. Ça s'appelait à l'époque le passage du musée, c'est-à-dire le musée de Beyrouth longeait une grande avenue, définissait une grande avenue qui était entièrement déserte et qui faisait la séparation entre les quartiers chrétiens et les quartiers musulmans. Et quand je lui ai demandé de me conduire à Ashrafieh, c'est-à-dire en quartier chrétien, des amis à Paris m'avaient donné quelques adresses de gens que je pouvais contacter. Il m'a dit, ah madame, c'est pas possible, moi je ne traverse pas la place du musée, c'est trop dangereux. Alors j'ai dit, mais moi je fais comment ? Alors, ensemble, nous avons appelé les gens que l'on m'avait recommandés à Ashrafieh dans le quartier chrétien. Et ces gens m'ont dit, écoutez, nous allons venir vous chercher de l'autre côté de la place du musée, mais il faut que vous traversiez la place du musée. Nous, on ne peut pas venir de Ashrafieh en voiture parce que c'est trop dangereux. Donc, et le chauffeur de taxi me dit, moi, je ne traverse pas la place. Et moi, je me dis, il n'y a qu'une solution, c'est que moi, je traverse la place du musée. Je me retrouve à pied, en tailleur bleu marine, avec un chemisier rose complètement ridicule de chez Alain Figarette, avec des mocassins bleu marine, un sac bleu marine, avec mes cheveux blonds coupés au carré, mon air de débarquer de la lune, avec une énorme valise Samsonite qui n'avait que deux roulettes à l'arrière et qui était très très lourde, parce que quand même j'allais peut-être faire ma vie à Beyrouth. Et je me retrouve, et le chauffeur de taxi m'indiquant l'autre côté, mais l'autre côté de la place du musée, c'était 300 mètres. Et il n'y avait personne, sauf des tirs. J'entendais des tirs de tous les côtés. J'entendais des tirs d'armes automatiques, de mitraillettes, de mitrailleuses. Mais je ne savais pas quoi faire. Et je crois que dans ma naïveté, je suis partie à pied, j'ai traversé cette place. Et je pense que les combattants qui étaient de chaque côté ne m'ont pas tiré dessus. J'aurais dû être tuée à ce moment-là. Ne m'ont pas tiré dessus. Parce que je devais avoir l'air tellement abruti, tellement idiote de traverser cette place en tailleur bleu marine, avec une grosse valise, en plein combat. Et moi, j'avançais. Et j'ai même pas eu peur, je dois dire. J'ai pas eu peur parce que j'ai pas senti que j'étais en danger. Parce que j'étais dans une naïveté telle que je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse me tirer dessus. Or, la veille et le lendemain, il y a eu des gens qui ont été tués à cet endroit-là, dont le directeur du journal qui s'appelle L'Orient le Jour, l'équivalent du Monde en France, qui connaissait très très bien la situation et qui a été tué à l'endroit où j'étais la veille. Et je n'ai jamais compris comment j'avais échappé ce jour-là. Quand je suis arrivée à la hauteur de la porte principale du musée, c'est-à-dire qu'il y avait des colonnes grecques, enfin, c'était un très joli bâtiment qui existe toujours, qui est toujours le musée de Beyrouth, enfin, qui est redevenu le musée de Beyrouth, parce qu'à l'époque, c'était devenu le refuge des phalangistes. En fait, une base des phalangistes. Il y a des hommes en cagoule, cagoulés de noir, qui m'ont sauté dessus. Il y en a un qui a pris ma valise de mes mains, l'autre m'a chargé sur son épaule et ils m'ont emmené dans le musée, là, à toute vitesse. Et là, je dois dire que j'ai eu un peu peur. Et quand on est arrivé à l'intérieur du bâtiment, ils m'ont posé et ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Mais vous êtes complètement folle, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire ?» Et moi, je les ai regardés avec des yeux ébahis parce que je ne savais même pas, je ne comprenais même pas ce qu'ils étaient en train de me dire. J'ai juste compris très vite qu'ils m'avaient sauvé la vie et qu'au risque de la leur, ils étaient venus me chercher sur cette avenue. Il m'avait entraînée à l'abri du danger. Et à ce moment-là, j'ai compris tout ce que je venais de faire. Et je leur ai expliqué ma situation, que des gens que je ne connaissais pas devaient m'attendre à l'entrée d'Ashrafieh. Et très, vraiment avec... D'abord, ils m'ont réconfortée parce que... Et ils m'ont expliqué...
En quelle langue ?
En français. Tous les Libanais chrétiens parlent tous français. Les Libanais musulmans parlent tous anglais. Parce qu'en zone chrétienne, les collèges sont les jésuites, les grandes écoles sont tenues par les jésuites. Et ils sont tous de langue française. Et dans la partie musulmane de Beyrouth, les écoles sont tenues par les Américains et les grandes écoles, les écoles et les universités sont américaines et donc les gens sont élevés en anglais. Et à Beyrouth, tout le monde, en fait, la plupart des Libanais parlent à la fois anglais, français et arabe, à moins de vraiment ne pas avoir reçu d'éducation. Mais vraiment, c'est très rare.
Et là, vous avez pu retrouver vos amis ?
Alors là, ces phalangistes m'ont conduite dans une voiture blindée, par derrière le musée, en passant par des tas de petites déviations derrière le musée, jusqu'à la voiture de ces gens que je ne connaissais pas et qui sont devenus mes amis, qui avaient une R5 jaune vif. Donc, ils étaient faciles à repérer. Et quand les phalangistes m'ont déposé à la hauteur de leur voiture, ils m'ont avoué qu'ils m'avaient vu depuis un bon moment, ils m'avaient vu m'engager sur l'avenue du musée, et, parce qu'ils étaient arrivés et qu'ils surveillaient mon arrivée, mais qu'ils ont pensé que je n'arriverais pas. Et ils ont considéré comme un miracle que j'arrive vivante jusqu'à eux, c'est-à-dire à 300 mètres de l'endroit où le taxi m'avait déposée. Et donc là, j'étais en zone chrétienne et j'étais à l'abri des combats, puisque le musée faisait la frontière et que les combattants chrétiens protégeaient l'Ashrafieh de l'intrusion des musulmans qui étaient de l'autre côté de ce qu'on appelait la ligne verte, c'est-à-dire l'avenue du musée. Donc j'étais bloquée à Ashrafieh et les deux zones étaient séparées par la guerre, la fameuse ligne verte sur laquelle étaient engagés tous les combats. J'ai vécu 2 mois à Ashrafieh chez ces gens qui m'ont accueillie comme un de leurs enfants. Le premier soir, j'ai eu une jolie surprise, c'est que quand je me suis couchée dans le lit d'une de leurs filles qui était partie en France, en passant la main sous l'oreiller, j'ai trouvé un pistolet. Dans toutes les maisons du quartier, il y avait des armes sous les oreillers au cas où. Donc j'ai passé 2 mois sous les bombardements à Ashrafieh. À chaque fois qu'un bombardement commençait avec cette famille qui m'avait adoptée, qui s'appelait les Aoun, nous descendions dans les derniers étages de l'immeuble, parce qu'à Beyrouth, il n'y a pas de cave. Beyrouth est construit sur la pierre, donc il n'y a pas de cave. Donc quand on voulait se protéger des bombardements, il fallait descendre au premier étage des immeubles, parce que les obus rebondissaient sur le haut des immeubles, mais ils ne pouvaient pas entrer et tomber jusqu'en bas. Donc en fait, dans tous les quartiers, que ce soit à l'est ou à l'ouest, dès qu'un bombardement commençait d'un côté ou de l'autre, les gens descendaient au pied de l'immeuble et vivaient les uns avec les autres dans les appartements les plus protégés. Il y avait aussi une autre règle, c'était de dire qu'il fallait mettre 2 murs entre le bombardement et nous. C'est-à-dire que quand le bombardement avait lieu dans la nuit, on se mettait dans des chambres qui permettait de prêter 2 murs entre nous, enfin entre l'endroit où nous étions et le mur sur lequel pouvaient arriver les obus, les bombes, en fait.
Et pourquoi vous n'êtes pas rentrée en France à ce moment-là ?
Ah non, c'est parce que à ce moment-là, j'étais tellement folle d'amour que je voulais absolument rejoindre Philippe. En fait, j'ai mis 2 mois. Et chaque jour, j'allais au centre d'information des phalangistes pour demander quand il y aurait un passage à Beyrouth Ouest. C'est-à-dire que moi, j'étais à Beyrouth Est. Et quand je pourrais faire le passage à Beyrouth Ouest. Et les phalangistes qui m'avaient donné un surnom, parce que quand je suis arrivée dans le quartier d'Ashrafieh, les amis chez lesquels j'étais avaient certains membres, certains neveux, nièces, membres de leur famille dans les forces phalangistes, c'est-à-dire c'était des combattants. Et tout le monde m'avait prise en amitié parce qu'ils savaient que je voulais rejoindre l'amour de ma vie qui était de l'autre côté de la ligne verte. Et du coup, ils m'avaient donné un surnom à cause de mes cheveux blonds. Il m'appelait Nef Nefé, ça m'est resté, mes frères m'appellent encore comme ça. Nef Nefé, en arabe, ça veut dire neige. Et quand j'arrivais au centre phalangiste du quartier. À chaque fois, oh, Néfé, tu es là. Et ils m'accueillaient, ils m'offraient du café, des gâteaux au miel. Et je leur demandais, et quand pourrais-je passer à Beyrouth Ouest? Quand pourrais-je avoir un passage? Et à chaque fois, ils me disaient, mais tu sais, aujourd'hui, c'est trop dangereux, on ne veut pas te mettre en danger. Donc, j'ai attendu plus de 2 mois. Et un jour, ils m'ont fait signe en me disant, aujourd'hui, on a une voiture qui va traverser. Donc, on te met dans cette voiture. Et en fait, ça a été très, très dur, la traversée. C'est resté pour moi un cauchemar qui s'est traduit par une image. C'est que j'étais allongée au fond de la voiture et il fallait traverser par un pont d'autoroute qui était très long. Et ce pont d'autoroute, il fallait échapper aux francs-tireurs des deux côtés. Parce que quand une voiture traversait ce pont d'autoroute, on savait qu'elle allait à l'ouest. Et quand une voiture traversait dans l'autre sens, on savait qu'elle allait à l'est. Et les francs-tireurs des deux côtés empêchaient ce passage. Et la voiture, en fait, faisait des zigzags sur cet autopont pour échapper aux balles, pour dévier les balles des francs-tireurs. Mais moi, j'étais allongée au fond de la voiture et je ne voyais rien. Donc, je ne savais pas ce qui pouvait arriver. Et on est arrivé de l'autre. Je suis arrivée à Beyrouth Ouest grâce à ce chauffeur des phalanges. Qui lui avait d'autres missions à faire à Beyrouth Ouest. Et quand je suis arrivée à Beyrouth Ouest, j'ai été accueillie par des amis palestiniens de la famille d'Ashrafieh d'où je venais. Vous dire que cette guerre, ça n'a pas été une guerre que les Libanais ont vraiment voulu, parce que tous les Libanais avaient des amis musulmans, palestiniens, chrétiens. Et ça a vraiment été une guerre qui a été organisée par les puissances extérieures au Liban, par d'autres. Et les Libanais l'ont vécu. Bien sûr, certains y ont pris part. Et c'était leur pays qu'ils défendaient. Et c'est compliqué à expliquer. Mais cela dit, donc j'ai été accueillie par cette famille palestinienne d'une manière absolument remarquable. J'ai pu arriver à l'hôtel où étaient tous les journalistes étrangers. Et quand je suis arrivée, j'ai senti que Philippe avait une attitude extrêmement fuyante vis-à-vis de moi. Il partait en Syrie, il avait des missions, il n'était pas là. Et j'ai compris, parce que des amis me l'ont expliqué, qu'il était tombé amoureux de la présentatrice du journal télévisé en français de Beyrouth, de la chaîne libanaise, la chaîne 11, qui était la chaîne en français. Et du coup, à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous raconter quelle a été ma tristesse, mon état d'esprit, mais je n'ai eu en tête plus qu'une idée, c'était de prouver à Philippe que moi aussi je pouvais monter au front, que je pouvais me battre, que je pouvais vivre dans cette guerre. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé des liens avec des gens de l'AFP, des gens de différentes chaînes de télévision américaines, françaises, France Inter, Christian Bielmann de France Inter, Bonnie de Torhout de l'AFP, qui m'ont adopté, qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont emmené avec eux quand ils montaient au front, quand ils allaient au sud, quand ils allaient dans les camps palestiniens. Et j'ai commencé à vivre la guerre comme une journaliste un peu. Et à ce moment-là, m'est venue à l'idée de m'intéresser au sort des familles palestiniennes et des enfants palestiniens qui étaient dans les camps au Liban. Et j'ai commencé à faire quelques reportages, alors que j'en avais jamais fait de ma vie, j'étais pas journaliste. Je voulais juste montrer à Philippe que je pouvais le faire. Et ça m'a donné une énergie folle. Et j'ai appelé Marie-Claire, journal Marie-Claire à Paris, et j'ai vendu mon premier article sur les enfants réfugiés dans un camp au sud du Liban. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais le faire, et que ce serait ma vocation. Je suis restée à Beyrouth pendant 3 ans. J'ai vécu grâce à l'aide d'amis. J'ai été reçue, j'ai habité avec une amie qui était musulmane. Après, la famille palestinienne est partie en Jordanie. Donc, je suis allée m'installer en face du Commodore, le grand hôtel des journalistes, à Beyrouth, dans un dernier étage avec une amie qui était d'une famille musulmane. Cette famille musulmane m'avait adoptée comme les chrétiens, comme les palestiniens m'avaient adoptée. Et nous avons vécu ensemble pendant 3 ans. Moi, je me débrouillais un peu en faisant des piges, en faisant des petits boulots. Et puis, je suis revenue à Paris. Et quand je suis revenue à Paris, j'ai été embauchée à l'Express comme stagiaire au service de politique étrangère, m'occupant du Proche-Orient. Et l'Express, comme j'étais une stagiaire très mal payée, l'Express à l'époque offrait à 6 stagiaires, dans le cadre de la formation permanente, la possibilité de suivre les cours de l'école de journalisme de la rue du Louvre, qui est une des meilleures écoles de journalisme en France. Et je me suis inscrite à l'école de journalisme de la rue du Louvre en cours du soir et en week-end. En fait, c'était en dehors de mon travail à l'Express. Et je suis sortie major de cette école du Louvre et l'Express m'a embauchée définitivement.
Bravo.
Et voilà comment je suis devenue journaliste.
Et vous n'avez plus jamais revu ce fameux...
Si, je l'ai revu souvent, parce que nous évoluons dans le même milieu à Paris, le milieu du journalisme. Lui, entre-temps, était devenu rédacteur en chef de Radio Monte Carlo et de RMC, donc, qui est une grosse chaîne de radio en France. Et nous nous croisions dans les conférences sur les sujets du Proche-Orient, dans les conférences, les réunions de presse, j'ai toujours eu la même émotion en le rencontrant, c'est qu'à chaque fois j'avais l'impression que j'allais défaillir, mais j'ai été courageuse et Philippe sait aujourd'hui que je suis devenue journaliste, c'est grâce à lui, c'est grâce d'abord à ce qu'il m'a appris quand je l'ai rencontré du monde, parce que ce sont des choses que j'ignorais absolument. J'ai pris la cause palestinienne à cœur et toute ma vie j'ai défendu cette cause palestinienne. J'ai fait ce que je pouvais pour être le plus efficace possible et puis j'ai été journaliste pendant 25 ans à l'Express. Puis après j'ai été embauchée par Le Monde pour créer le magazine Aime le Monde. Et où je me suis occupée beaucoup plutôt à ce moment-là d'art, de mode et de voyage. Et pendant toute ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Je crois que je suis allée 6 fois en Inde, 7 ou 8 fois en Chine. Je suis allée dans beaucoup de. Enfin, tout l'Asie du Sud-Est, le Proche-Orient, l'Amérique latine, les États-Unis. Enfin, je suis allée un peu partout dans le monde, à vrai dire, après. Et encore aujourd'hui, je suis toujours journaliste et je le serai jusqu'à ma mort. Voilà.
Et on va pas pouvoir parler de tous ces pays et de toutes ces expériences, non. Mais est-ce que vous voulez nous partager un reportage marquant, peut-être, dont vous êtes le plus fier ou le plus marqué encore aujourd'hui ?
Alors, un reportage marquant. C'est compliqué parce que chaque reportage est très marquant. J'avoue que j'ai eu une très belle expérience au Cambodge C'est parce que le Cambodge est un pays qui est tellement blessé, c'est un pays blessé, c'est un pays, le procès des Khmers Rouges a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et quand je suis partie au Cambodge, il y avait encore cette blessure due au passage des Khmers Rouges. J'y suis allée finalement assez tôt, quand le tourisme a commencé à reprendre au Cambodge, et nous allions dans des régions où il fallait encore, il y avait encore des mines autour des temples, et puis les Cambodgiens sont des gens formidables, et j'ai eu un voyage extraordinaire aussi, c'est en Birmanie, et ça je n'oublierai jamais. Je suis allée en Birmanie à un moment où mes amis journalistes me disaient, il ne faut pas aller en Birmanie parce que le tourisme birman est tenu par la junte. Et j'avais rencontré à Paris des Birmans de l'opposition qui m'avaient dit au contraire, il faut que vous alliez en Birmanie pour ouvrir le pays, pour apporter un peu d'air au Birman, un peu d'air frais, un peu d'ouverture, et puis surtout parler de la situation des Birmans. Donc je suis partie contre l'avis de certains journalistes, et j'ai rencontré des gens aussi extraordinaires et qui avaient besoin de se confier. C'était des voyages difficiles à faire parce que nous avions le sentiment, j'étais avec un photographe que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est très courageux, très très perspicace et intelligent, et nous avons pu dépasser nous la peur d'être suivis, espionnés, parce que en Birmanie vous êtes toujours suivis par les services de renseignement, et en même temps rencontrer des gens sans les mettre en danger, et ça c'était extrêmement difficile parce que à partir du moment où on interviewait des gens, ces gens devenaient surveillés par la police birmane. Et donc, en les rencontrant, d'une certaine façon, nous les mettions en danger dans leur propre pays. Ça a été des voyages marquants. Et puis, il y a une anecdote dont je me souviendrai toujours, c'est que dans les temples cambodgiens, en fait, c'est extrêmement difficile de monter dans un temple cambodgien. Et je me disais, il faut que j'y arrive, je mettais tout mon courage, et j'étais avec ce même photographe qui s'appelle David, et qui m'aidait beaucoup. Mais lui, il avait 50 kilos de matériel photo sur le dos, et il tenait mes pieds, il faisait attention, il me guidait le long des murs des temples pour grimper en haut des temples. Mais redescendre, c'était l'horreur, et j'ai cru mourir 14 fois en essayant de redescendre du haut d'un temple de Angkor ou de la région. Voilà, c'est des souvenirs. Puis il y a tellement de souvenirs aussi. J'ai un souvenir très joli aussi de Santa Fe aux États-Unis, au Nouveau-Mexique aux États-Unis. C'est un riche propriétaire terrien avait fait construire dans le désert un opéra pour son fils qui chantait. On m'avait envoyé en reportage, faire un reportage sur cet opéra posé dans le désert. Et c'est vrai que c'était un site inouï. C'était le fond du décor de cette scène d'opéra était le désert de Santa Fe. Et il y avait les tribunes en corbeille, comme à l'Opéra de Paris. Et pour aller faire les photos, nous avons dû escalader le mur d'enceinte qui était fermé, parce que c'était un moment où l'opéra était fermé. Et c'était absolument extraordinaire. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça de petits miracles, en fait. Mais le plus grand miracle de ma vie, c'est celui d'avoir traversé la place du musée le 11 mars 1976. 1976.
Une journée qui a changé votre vie.
Qui a fait ma vie. Elle n'a pas changé ma vie, elle a fait ma vie. Voilà, elle a défini toute ma vie à venir.
Voilà. Et le reste du temps, quand vous n'étiez pas en voyage, vous étiez toujours basée à Paris ?
Oui, j'étais basée à Paris. Et j'étais... quand je suis rentrée à l'Express, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai partagé avec deux autres journalistes comme moi, qui ont des jeunes journalistes de l'Express, le bureau de Raymond Aron qui venait de disparaître et qui donnait sur l'Arc de Triomphe. Donc nous avions un très beau bureau avec une grosse moquette, une télévision, un canapé, des bibliothèques et des balcons sur l'Arc de Triomphe. Et puis après, nous avons déménagé du côté de Montparnasse et là, ça a été très dur parce que nous nous sommes tous retrouvés sur des plateaux à partager à plusieurs, ce dont nous n'avions jamais eu l'expérience. Et ça a été un basculement dans... Et puis en même temps, le journalisme évoluait puisque quand je suis rentrée à l'Express, nous avions vraiment des moyens, nous avions des notes de frais, nous faisions des voyages en première classe en avion, en première classe en train, nous allions dans des hôtels. Et puis petit à petit, tout ça s'est beaucoup amenuisé, réduit, et les conditions d'effectuer notre métier ont beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui où finalement il n'y a presque plus aucun voyage autorisé, où tout se fait par internet et où le métier a beaucoup beaucoup changé. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance de me trouver dans le métier à un moment, d'entrer dans le métier au moment des grandes heures de ce métier et de terminer d'une manière très différente, mais de comprendre en fait comment notre métier a évolué, mais aussi comment notre société évoluait. Enfin, je pense que ça a évolué en même temps. Et aujourd'hui, les jeunes journalistes ont beaucoup moins de chances que nous. Ils travaillent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Deux de mes nièces sont journalistes, une au Monde, l'autre au Figaro, et je me rends compte quelle chance j'ai eu de vivre ce que je peux appeler encore la grande époque du journalisme.
Vous êtes partie à la retraite avant l'arrivée d'Internet, non ? Vous avez connu ?
Non, j'ai pas connu Internet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, nous avions des machines à écrire avec des bandes, et ce sont des secrétaires qui tapent. Enfin, nous écrivions nos papiers à la main. Et ce sont des secrétaires qui tapaient nos papiers. Après, nous avons eu des machines à écrire. Donc, nous tapions nos papiers et nous les donnions à relire à nos rédacteurs en chef. Et puis, quand nous envoyons des papiers à l'étranger ou de l'étranger, nous envoyons par Telex. C'était des bandes perforées. Et puis, des bandes perforées, nous sommes passés au fax. Et du fax, nous sommes passés à l'Internet, à dire au message. J'ai connu toutes ces époques et je peux peut-être raconter un dernier événement qui m'a beaucoup marqué. C'est que quand j'étais à Beyrouth, je suis retournée à Beyrouth en 83 pour l'été. J'étais en vacances, et c'est pour mes vacances en fait de l'Express. Et j'habitais dans une maison sur la corniche, en face de l'ambassade américaine. Et un jour, je me souviens pas de la date exacte de l'explosion, mais l'ambassade américaine a été l'objet d'un attentat. Un camion bourré d'explosifs a franchi toutes les grilles de protection et a explosé, l'ambassade a explosé, et dans la maison où j'étais, nous avons tous été blessés, c'est-à-dire que nous étions à table et moi j'étais tournée vers l'ambassade américaine et j'ai vu l'ambassade exploser, mais le bruit, la déflagration ne nous est arrivé qu'après, c'est-à-dire c'est arrivé tout d'un coup après qu'on ait vu les murs se soulevaient et on a tous été projetés par par le souffle de l'explosion par terre. Et quand on s'est regardé, on était tous blessés parce que les vitres de la maison avaient explosé aussi. Et nous, on était couverts de petits éclats d'air, mais on n'était pas blessés gravement. Mais c'était un peu... c'était à voir, c'était assez impressionnant. Et quand je me suis relevée, j'ai tout de suite appelé un de mes amis qui était à l'AFP de Beyrouth en disant: Samy, viens vite, l'ambassade américaine a sauté. Et Samy, du coup, je suis descendue dans la rue, je me suis d'abord essuyée le visage, je suis allée dans la rue rejoindre Samy qui arrivait avec d'autres journalistes. Et le spectacle que j'ai eu était absolument épouvantable. Parce que les voitures qui passaient le long de l'avenue qui longeait la mer avaient sauté à cause de la déflagration, donc les gens étaient morts dans leur voiture. Avec leur voiture, certaines voitures avaient été renversées. Et surtout, le long de l'ambassade américaine, en fait, il y a des corps qui pendaient partout. Entre les ruines, en fait, il y avait des corps déchiquetés partout et au sol aussi. Et ça, ça a été un souvenir. Ça m'est resté. Vraiment, ça m'a marqué, cette image. Même sous les bombardements, j'avais jamais vu un spectacle aussi horrible que celui-là, aussi terrible que celui-là. C'est impressionnant.
Vous avez dû voir des images pourtant très dures dans toute votre carrière de journaliste, mais c'est celle-là alors que vous retenez de...
Oui, sûrement. Mais là, c'était vraiment très impressionnant.
Et vous n'êtes jamais retourné au Liban après ?
Si, j'y suis retournée. Quand même. Très souvent. Oui, oui, bien sûr.
C'est resté un pays cher à votre cœur.
C'est mon pays, c'est mon second pays. Et les amis, les Aoun, les Dabaji, les gens, toutes les trois familles qui m'ont accueillie sont restées mes amies. Et une part de la famille Aoun habite à Paris et je les vois régulièrement, sont mes amies. Et leur maman est morte récemment, mais chaque année, enfin, elle s'appelait Nejmi, la maman des Aoun. Et chaque année, je l'appelais plusieurs fois par an, mais surtout au Nouvel An, je l'appelais toujours en disant: vous m'avez sauvé la vie, vous êtes ma seconde maman. Et elle me disait: mais bien sûr, mais ils m'avaient vraiment adoptée. Et pour eux comme pour moi, nous restons liés d'une manière formidable. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs aussi ont rencontré les Aoun et les ont aimés. Et ils sont venus à Malan. Et Olivier, Thierry, mes frères jumeaux, les ont très bien connus et se sont liés avec eux. Et mes frères jumeaux m'appellent toujours Nefe, comme on m'avait baptisé Neige au Liban. Voilà.
Et côté sentimental, est-ce que vous avez retrouvé l'amour ?
Oui, j'ai retrouvé l'amour, heureusement. Mais je crois que Philippe, indépendamment de m'avoir appris beaucoup sur la politique, je crois que Philippe m'a aussi beaucoup appris sur l'amour. Il m'a appris à faire l'amour. Il m'a appris l'amour et il m'a appris le sens des autres. Enfin, et ça m'est toujours resté. Et j'ai eu d'autres amours dans ma vie. J'en ai pas eu 15 000, mais je ne me suis pas mariée. Je n'ai pas eu d'enfant. J'ai élevé un enfant que j'aime comme s'il était mon fils, évidemment. J'ai eu deux grandes histoires d'amour, dont une qui vient de s'achever après 34 ans, parce que mon amoureux est mort il y a un mois. Voilà.
Un mois ?
Oui, le 28 juin, où il y a un peu plus d'un mois, en fait.
Alors, je suis vraiment désolée pour
vous. Mais non, mais c'est la vie qui est ainsi faite.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Et il était très malade, il avait deux cancers et il était plus âgé que moi et il ne voulait pas mourir, je crois. C'était un très bon vivant, mais il était trop malade. C'est son corps qui l'a lâché, pas sa tête. Ah. Voilà, donc c'est bien, c'est mieux.
Oui.
Ben, je ne sais pas, je crois.
Et là, on n'en a pas parlé, mais on est à Malan.
Oui.
un endroit que j'aime beaucoup parce que je connais de vos nièces. Cool. Et est-ce que vous vivez ici tout le temps ?
Non, j'habite à Paris, au cœur de Paris, au centre de Paris, en haut de la rue Beaubourg, aux Arts et Métiers, dans le quartier des Arts et Métiers. Et j'ai un appartement que j'adore et je suis très heureuse. Je suis parisienne dans l'âme parce que je suis née à Paris et j'aime la ville, les trottoirs, j'aime la ville.
Même les trottoirs.
Même les trottoirs. Mais à Malan, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'une de mes sœurs m'a prêté jusqu'à ma disparition une maison en échange que j'y fasse les travaux nécessaires. Et c'est vrai que quand j'ai repris cette maison, c'était vraiment une ruine, et que j'en ai fait une très jolie petite maison dans laquelle je me sens extrêmement bien, d'autant qu'elle est au bord de la rivière et que le village est traversé par cette rivière et que nous sommes très attachés à cette rivière aussi. Et donc, je suis très heureuse d'avoir pu, d'avoir cette opportunité d'avoir une maison dans ce village où mes frères et sœurs aussi ont une ou plusieurs maisons selon la taille de leur famille.
Ça, bientôt, vous aurez tout le village, les familles s'agrandissent.
Il n'est pas question que nous ayons tout le village, parce que ce qui est sympathique, c'est le mélange de nous et des autres. Et dans le village, je dois dire que récemment, nous avons créé un café social, un café collectif, et que nous sommes tous partie prenante dans ce projet avec les gens qui vivent toute l'année dans le village et puis d'autres qui ne font que, comme moi, que venir de temps en temps quand il fait beau, l'été, à Pâques, moins à Noël parce qu'il fait très froid quand même. Et du coup, voilà, l'ambiance du village est très sympathique, à vrai dire, et très courtoise et respectueuse.
Il me reste deux dernières questions. L'avant-dernière, c'est donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de votre vie ?
Je regrette de ne pas avoir épousé Philippe. Je ne dis pas son nom de famille, parce qu'il ne faut pas. Je regrette de ne pas avoir continuer ma vie avec Philippe, mais en même temps, c'est ce qui, sans doute, c'est cette rupture qui a créé ma naissance, en fait, enfin ma renaissance, on va dire. Voilà.
D'accord. Et la toute dernière, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Ça, c'est simple, c'est que je veux mourir très vite, je veux pas être malade, je veux pas. Je veux tomber morte un jour, voilà, comme ça. Notre maman est morte en quelques heures et bien sûr la douleur était immense, mais je crois que c'est aussi une manière de finir sa vie plus agréablement pour avoir accompagné nombreux amis depuis très longtemps déjà, mais de plus en plus dans la maladie et dans des situations de vie extrêmement compliquées. Voilà, c'est mon souhait, mais c'est le souhait de tout le monde, je crois, finalement, de ne pas souffrir. Ben, peut-être que c'est ça.
Pour une femme qui a vu tant de souffrances dans le monde, pas étonnant que cela soit son souhait le plus cher. Retenons toute la solidarité dont elle a bénéficié, elle, l'étrangère dans des pays en guerre. Notons aussi la place qu'a tenue l'amour dans sa vie et comment elle s'en est servie sous toutes ses formes pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Merci Geneviève pour votre témoignage. Je suis contente que cette fois, ce soit votre histoire qui ait été racontée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Rembobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram et Facebook pour mettre des visages sur des histoires. À bientôt !